Alors on va essayer de traiter ce soir le sujet bien connu du Mishkan et de la Trouma, la notion de la Trouma, notion un peu difficile à saisir, et de la construction du Mishkan, du sanctuaire que Hachem a demandé qu'on construise dans le désert. C'est marqué là-bas, au début de la parasha Trouma, d'abord, elle bénit Israël, tu parleras aux enfants d'Israël, Veikruli Terouma, ils prendront pour moi une Terouma. Mais et kol ish, de tout homme, asher id devenu libo, qui aura l'intention de le donner, kikru et terumati, vous prendrez ma teruma, vous prendrez donc ce prélèvement. Et après c'est marqué, ve'asuni migdash ve'shachanti betoham, et je ferai un sanctuaire, vous ferez un sanctuaire, ve'shachanti betoham, et je résiderai betoham parmi eux. Tout le monde connaît la drasha, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas écrit betocho et la betoham. Normalement on aurait dû dire, et je ferai un sanctuaire, et vous résiderez betocho, et je résiderai à l'intérieur. C'est écrit Betocham, ça veut dire à l'intérieur de vous. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais déjà en soi, la notion du Mishkan, le fait même de créer un lieu de résidence pour Hachem, bon nous on est habitués parce que on trouve ça normal, il y a le Beth Amikdash, le temple, il y a des églises. Tout le monde comprend qu'il y a un lieu qui est nécessaire. Mais si on réfléchit bien, à quoi ça sert? Ajourou il est partout. D'accord? Ajourou il contient le monde. Il est contenu dans le monde, mais lui-même il contient le monde. À quoi ça rime de lui faire un endroit pour résider? Et même si on dit qu'il réside, alors ça veut dire que Dieu il est plus à cet endroit-là qu'ailleurs. Et cet endroit-là c'est quoi? Oui, c'est c'est géographique, ça veut dire on fait quatre murs, puis d'un seul coup, dedans, ça devient un endroit pour Dieu. Et quoi, en dehors, c'est moins un endroit pour Dieu. Il faut comprendre quelle est la notion en soi du Mishkan. Deuxièmement, c'est marqué dans le Sforno, un commentateur, c'est marqué Kodem Aegel lo ayut trichim le Mishkan. Avant la faute de Vaudor, ils n'avaient pas besoin de Mishkan. Ils n'avaient pas besoin d'un lieu de résidence pour Hachem. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bechol Makom Hachereski le Tchemi, Avo Elecha Overasticha. Dans tout endroit où on mentionnera mon nom, je viendrai et je te bénirai. Ça c'était avant la faute du Hegel, avant la faute du Vaudor. Et juste après la faute du Vaudor, on a construit le Mishkan. Ça veut dire que la faute, elle a provoqué la nécessité du Mishkan. D'accord? Sans la faute, on n'avait pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté de plus le Mishkan? Qu'est-ce qu'elle a détruit la faute? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est écrit dans le Midrash, le Katouf Betocho et le Betocham. Ça veut dire que Dieu il va résider à l'intérieur. Alors tout le monde connaît que ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on va faire résider Hachem. Mais même ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si réellement le Mishkan il a été fait, si le temple il a été fait pour que Dieu réside en nous, alors c'est pas la peine de faire le Mishkan. Vous comprenez ou non? Veshachanti Betocham, vous allez me faire un temple, ça va coûter des millions de francs, des années de construction, et moi je vais résider en vous. C'est comme si toi tu achètes une maison à ta femme, 10 millions de francs, et tu te dis chérie moi une chambre de bonne ça m'aurait suffi. Pourquoi je me suis pris la tête, 10 millions de francs. Vous comprenez? Hachem il dit vous allez me faire un migdash, d'accord? Vous allez me faire un temple. Alors vous allez prendre tout l'or que vous avez, vous allez prendre des diamants, vous allez prendre des années de travail, et moi je vais résider en vous. Mais non, il fallait dire tu vas résider là-bas, parce qu'on a payé pour ça. Pourquoi on se fatigue alors? Il est bizarre. En plus, c'est marqué avec Rouli Teruma, oui. Normalement, on aurait dû dire Tenouli. Donnez-moi. Avec Rouli, ça veut dire ils prendront pour moi. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Parle aux enfants d'Israël, Utnouli et donnez-moi la Teruma. Donnez-moi un prélèvement. Chacun, il va prendre de sa richesse pour le temple. C'est comme ça qu'on aurait dû dire. Donnez-moi. C'est écrit prenez pour moi. C'est entendu. Ça a l'air d'être que t'as pas envie de donner. Genre prends-le, vas-y, porte-toi un peu. Prends-le. D'accord? Et juste après, c'est marqué dans le Passouk, et comme la chérie des Vénus libo. Ce que tout homme va donner de bon cœur. Alors soit on parle de bon cœur, ou on le donne de mauvais cœur. On se force, on est content. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il faut? Quel argent il faut pour faire le temple? Il faut de l'argent que les gens ils se forcent à donner parce que t'es obligé, hein, t'as peur de mourir. Ou non, tu le donnes parce que t'as envie de donner, t'es content de le faire. C'est marqué les deux dans le même pasouk. Veikrelu teruma, me'et kol ish, asher idevenu libo. Et vous prendrez pour moi une teruma, donc on sort un ordre. de tout homme, à chéri divenu libo, qui te donnera de bon cœur. Alors venez, on va essayer de comprendre tout ça. C'est marqué dans Vaïkel, un peu plus loin, toutes les parachiotes qu'on voit là en ce moment, d'ailleurs on va terminer avec Vaïkel et Pekoudé, depuis Trouma jusqu'à Vaïkel Pekoudé, c'est que la construction du Mishkan. C'est marqué là-bas, Vaya'at et Akiyor Nechoshet, Bemarot, Atlovot, Ashertavu, Petach ou El Moel. Parmi les ustensiles qu'il y avait dans le Mikdash, il y avait un bassin, une espèce de récipient comme ça, avec des robinets, et avec de l'eau qui coulait, pour que les Kohanim se lavent les mains hein, avant le service divin. D'accord. Maintenant, ça c'est un symbole de pureté, c'est un symbole de ce que quelqu'un doit faire pour pouvoir rentrer dans la proximité avec Hachem. Alors, ils ont demandé avec quoi on a construit ce kior, avec quoi on a construit ce bassin pour se laver les mains. On l'a construit avec des miroirs que les femmes ont offerts. Là, c'est marqué. Ben, il y a cet akior, Nechoshet. On a fait ce bassin en airain. Bemar hot atsov hot. Avec les miroirs. Des femmes qui se sont rassemblées à Shertsav ou Petach ou Al-Moed à la porte de la tente d'assignation. C'est vrai que beaucoup, il a demandé, bon, il a dit, alors, et maintenant, vous allez faire le kior. Et les femmes, elles ont amené d'elles-mêmes, elles ont amené leur miroir pour pouvoir fabriquer ce kior. Alors, là-bas, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, au départ, il n'a pas voulu prendre les miroirs. Il a dit, attends, à quoi ça sert les miroirs? Les miroirs, ça sert à se rendre belle, oui, pour aller faire des bêtises. Vous comprenez? La grâce naturelle, il n'y a pas besoin de miroir. La grâce surnaturelle, c'est un miroir. C'est d'accord. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, gardez vos miroirs, mesdames, gardez vos miroirs. Oui. Ashbukhu, il a dit quoi? Il a dit, tu vas prendre ce miroir. Regarde ce qui est marqué. Qui est lou, chavivim, alay, minakol. Il dit ça, je les préfère que de tout. Enfin, un type, il a donné la zaka de tout son cœur. Ashbukhu, il a dit, je préfère le miroir que ça. Pourquoi? Il dit, parce que, grâce à ces miroirs, les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est compliqué, l'histoire. C'est pas qu'il y avait des rétroviseurs sur les... Oui, c'est grâce à ces miroirs. Il dit non, là-bas, il explique, là-bas, le Rashi, il dit c'est très simple. Il a dit, les hommes, ils étaient envoyés en esclavage, ils partaient dans les champs pour aller travailler. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Nashim cette quignote, les femmes, oui, ça des quêtes de l'Égypte. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles s'arrangeaient bien avec le miroir. Après, elles partaient, elles allaient amener à manger à leur mari. Et le mari fatigué et tout ça, et ils concevaient un enfant. D'accord? Et comme ça, ils ont réussi, malgré tous les travaux forcés qui ont été imposés, que les femmes d'Israël, elles ont réussi à faire sortir les ministres d'Égypte, c'est-à-dire il y a eu une suite. Il y a eu une suite et un développement, un épanouissement du peuple, alors que les Égyptiens, ils avaient tout fait pour que le peuple disparaisse. Il a dit, grâce à quoi? Grâce à ces miroirs-là. Alors, dire ces miroirs-là, que ces femmes, elles amènent, alors tu vas les mettre pour le kior. Et le kior, attention, le kior, c'est pas n'importe quoi. Le kior, c'est là où on va ramasser les eaux avec lesquelles on fait des filates. On lave les mains des Kohanim, mais c'est aussi les eaux avec lesquelles on va faire la cérémonie de la sota. Quand une femme, il y a un doute qui est presque confirmé, c'est très probable qu'elle a fait des bêtises avec quelqu'un, que son mari la soupçonne et qu'il lui a demandé de ne pas s'isoler avec la personne et qu'elle s'isole avec la personne pendant un temps qui pourrait lui laisser le temps de jouer au Monopoly, d'accord? Donc, on va prendre cette eau-là du Betamikdash et on va mettre dedans, on va écrire la paracha Sota, on va l'effacer, on va lui faire boire, d'accord? Que dit cette paracha? Et si réellement la faute est, la femme, elle explose, comme ça c'est marqué, de là l'expression, elle sauta, bon c'est pas grave, ouais, elle explose, ouais, et si elle a pas fauté, elle a une bracha de ça. D'accord? Il dit là-bas le Midrash, les filles d'Israël, elles étaient tellement propres, tellement claires dans leur tête, elles ont dit, c'est pas grave, tu peux faire les autres sotas. On est sûr que les venus d'Israël, il n'y aura pas de virage dangereux chez nous. Il n'y a pas. Tu peux y aller, tu peux tester. Donc elles ont donné ce miroir pour fabriquer le kior, et avec ça, et le kior qui lui est un accès pour la sainteté. Avec quoi? Avec les miroirs. Les miroirs, ils représentaient quoi, le Yetzer Hara? Nous, on peut dire que la réaction de Moshe Rabbeinu, elle était justifiée. C'est vrai, à quoi ça sert un miroir? Vous avez compris? Ah, c'est pour... Si tu l'amènes, t'es fini. Si tu l'amènes un miroir, ça n'arrive à rien. Le Eben Ezra, regardez ce qu'il dit. Qui mishpat kol anashim leitiafot. Et parce que c'est la nature, c'est la loi de toutes les femmes. Leitiafot, de se rendre belle. Lirot peneem, de voir leur visage. Bechol boker, tous les matins. Bemarot, dans un miroir. Bon, il aurait pu rajouter tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, tous les mois. Les taken, aperim, shal rochem, pour arranger leur perruque, ou leur foulard. Iné. Ah, c'est marqué, hein. Non, c'est religieux, comme cours, oui. Veiné. Ayou Israël. Restez sérieux. Veiné Ayou, be Israël, nashim of dot Hachem. Il dit, il y avait parmi les bénis Israël des femmes, regarde, servantes de Dieu. Chez Sarou, Mitaavot, Zéaolam, qui s'étaient séparés complètement des profits de ce monde. Venatnou, Marotem, Nedava, et qui ont donné leur miroir en tant que Nedava. Il y en a qui ont amené de l'or, il y en a qui ont amené des lingots. Ils ont donné leur miroir. Qui haine la haine, Sorer, off, le Od, les Kiafot. Ils n'avaient pas besoin de se faire belle. Ouais, maintenant ils ont dit, moi je consacre ma vie pour les mitzvot. Elles donnent le miroir. Ragbaot, Yom, Yom, elle a Pesach au El Moed. Chaque jour, elle venait à la porte de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'endroit où Akadosh Baruch Hu résidait avant qu'il y ait le Mishkan, avant qu'il y ait le sanctuaire, là où il y a la tente de Moshe Rabbeinu. Elle venait, elle est palel pour prier, Velishmoa, vivre un mitzvot, pour écouter les nouvelles mitzvot que Moshe Rabbeinu il annonçait chaque jour. Vezeu, Asher, Sevaou, et ça, ce qui est marqué dans le passage, qu'elles se sont rassemblées, qui a eu Rabot, car elles étaient nombreuses. Donc elles étaient nombreuses, comme ça, elles sont venues, de leur plein gré pour amener quelque chose. C'est chacun, il a essayé d'amener ce qu'il avait de plus cher à ses yeux. Un, il a amené de l'or. Ça coûte. T'as de l'or, tu dis, oh, amen. L'autre, il a amené une portière de Pontiac. D'accord? Chacun, il a amené quelque chose pour faire le tabernacle. Et elles, qu'est-ce qu'elles ont amené? Elles ont amené leur miroir. Pire encore, il dit le Ramban, on voit que la Torah, pour chaque ustensile, elle a donné la taille. D'accord? Pour le Aaron, on va faire de telle taille et telle taille. Une ama et demi sur une ama, d'accord? Pour chaque chose, il y a une taille. Et un poids. À chaque fois, c'est marqué, tu vas prendre telle quantité d'or, telle quantité d'argent. Mais pour le kior, pour le bassin, il n'y a pas de quantité. Il dit quoi le Ramban? Ça veut dire que ça dépendait complètement de ce que ces femmes, elles allaient, le nombre de miroirs qui allaient être amenés. En plus, il n'a pas voulu de mélange. Il a dit là-dedans, tu vas mettre que les miroirs. Ah, puis, bon, il n'y a pas que elles qui vont amener de l'airain. Il y a rien plein qui ont amené des métaux. Non, il a dit ce métal-là, pour faire le kior, tu vas garder que les miroirs. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il n'a rien demandé, elles l'ont amené de leur plein gré, et il fallait que ça se fasse comme ça. Pourquoi? Oui, il faut bien comprendre. Kadosh Baruch Hu, il a pris un risque. Il n'a pas, au départ, dit telle et telle mesure, et telle quantité. Il n'a rien dit. Donc, ça va dépendre. Si les femmes, elles n'amènent rien, imagine. Imagine, elles disent, mais moi je garde mon miroir, moi. Eh bien, il n'y a pas de kior. C'est dangereux. Un jour, il aurait dû dire, vous ferez un kior, vous ferez un bassin en airain, et si les femmes, elles veulent l'amener, elles amènent. Non, Hachem, il a dit, vous faites un bassin en airain. Ni quantité, rien. Tout ce qui avec quoi? Quel airain on va prendre? C'est les femmes qui ont décidé d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'Hachem, il avait organisé les choses pour que ça se fasse, c'est-à-dire qu'il a tendu la perche aux femmes, pour qu'elles comprennent que c'était important qu'elles le fassent, et elles ont compris qu'il fallait le faire. Mais pourquoi il fallait que ça se fasse comme ça? Ici, la notion de Nedivat Lev, un don du cœur, elle se comprend encore mieux. Elle prend vraiment son sens. Parce que quand il faut, pour quelqu'un donner quelque chose qui te coûte, c'est comme si une femme, par exemple, elle va donner sa bague de fiançailles. Imagine, il y a une cala, elle vient et dit que voilà, je veux me marier, j'ai pas d'argent pour acheter. Mon khatan, il a pas d'argent pour acheter la bague, et qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Et la femme, ça fait 20 ans qu'elle est mariée, elle prend sa bague, elle dit, tiens chérie, prends cette bague et marie-toi. C'est dur. T'es attaché, c'est la bague de ton fiançailles à toi. C'est difficile. Quelqu'un qui fait ça, vraiment, c'est qu'il a du cœur. Le plus rigolo, c'est que cet exemple de la bague, il n'est pas au hasard, parce que moi, je connais quelqu'un qui l'a fait, ça. Qui a donné sa bague de fiançailles pour un khatan qui n'a pas d'argent. C'est dur, quoi. Ça fait 20 ans que tu es marié. Tu dis, bon, tu préfères lui donner 500 balles, 1000 balles, que lui filer ta bague. Ta bague, c'est ton khatan, ton mari, il est venu chez toi, il t'a donné ça. il t'a donné quelque chose, ça te coûte. Ça s'appelle Nedivat Lev. Nedava, ça veut dire un cadeau. Mais Nedivat Lev, ça veut dire un don du cœur. Alors, pour l'instant, on comprend simplement que c'est une certaine qualité de cadeau spécifique. Akadosh Baruch Hu, pour construire le Kior, pour construire ce bassin-là, qui allait être un peu le garant de la pureté, il avait besoin d'un don du cœur, des femmes, et pas de n'importe quoi, de quelque chose qui leur coûte vraiment. Nous, on aurait pu dire, eh ben, leur boucle d'oreille, leur bracelet, non, le miroir. Pourquoi il fallait que ce soit comme ça? Pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça marche un don. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il y a deux parties qui n'ont rien à voir. Bien que nous, on a l'habitude de le considérer comme une seule chose, mais en vérité, il y a deux parties. D'abord, tu vas prendre de toi. Excusez-moi, les murmures au premier étage, ça me fatigue un peu. Il y a plein de café dans le coin. Donc, premièrement, c'est que tu prends de toi dans un don. Deuxièmement, c'est que ça arrive à l'autre. Nous on dit, mais c'est la même chose, je prends, je donne. Non. Il y a une différence entre le geste de donner à l'autre et le geste de prendre de soi. C'est une première étape. Il faut que tu prennes quelque chose de toi. Comme la Gemara dit, tzedaka lefi chesed. La tzedaka dépend de la bonté. Tu dis, mais la bonté c'est quoi? C'est le résultat obtenu ou c'est l'effort fourni? Qu'est-ce qui est dur dans le don? De prendre de soi ou de donner à l'autre? Donner à l'autre, tu dis, mais c'est dur quand même, j'ai pas envie, l'autre c'est pas moi. Se donner à soi-même, regarde, c'est facile, tu prends 10 000 francs, tu les déposes sur ton compte. Il voit que c'est tellement bien, tu voulais le refaire ou je... Tu le refais, tu te remets 10 000. Ça fait toujours 10 000, mais ça fait quand même plaisir de se faire un petit cadeau de 10 000, tu vois. Donc de se donner, chacun comprend que ça fait plaisir. De donner à l'autre, ça fait plaisir, mais ça te coûte. Bon, si tu fais ça avec l'argent des autres, c'est pas dur. Mais si tu fais ça avec ton argent, d'un autre côté, tu dis oui, mais quand tu vois la tête de l'autre, t'es tellement content d'avoir fait plaisir, c'est facile. D'accord? Donc la partie donnée, elle est facile. Mais la partie prendre, elle est dure. Regarde quand tu dois choisir un cadeau. Combien? 50 balles, 500 balles? Pas pareil, hein. Pourtant, l'autre, tu sais qu'il va même pas, l'autre, il va prendre, il va dire, oh, merci beaucoup, hein, vraiment, je suis très touché. Si j'ai pas eu, j'aurais su, j'aurais pas mis 500 balles. Hein. Donc, ce qui va se passer dans la tête de l'autre, et ce en quoi tu comptes dessus pour t'encourager à donner, et ce que toi tu fais pour prendre de toi, ça n'a rien à voir. Donc, il y a une partie qui s'appelle que tu prends de toi, et il y a une partie qui s'appelle que tu donnes à l'autre. Il y en a une qui rapporte, il y en a une qui coûte. Mais c'est deux parties qui n'ont rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le Mishkan? Que Akadosh Baruch Hu, il a dit, venez, vous allez donner pour fabriquer le Mishkan. Vous allez donner. Il faut donner quelque chose. Maintenant, en vérité, ça ne veut rien dire cette histoire. Parce que Dieu, on ne peut rien lui donner, puisque tout est à lui. L'Hachem arrête Umloa. À Dieu est la terre et tout ce qu'elle contient. Est-ce que toi, tu crois que quand tu as acquis quelque chose, tu as acquis quelque chose? Tu n'as rien acquis. Et quand tu l'as donné, tu as donné quelque chose? Tu n'as rien donné. C'est à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as rien du tout. Si, mais si, quand même, c'est à moi, c'est marqué, c'est dans mon compte. J'ai fait ce qu'il veut. D'abord, comment tu l'as eu tout ça? Ah ben, j'ai travaillé, j'ai ouvert une boutique et tout ça. Oui, d'accord, oui. Oui, d'où sortent les clients? Où t'as eu l'idée virale de ce produit? Je sais pas, elle m'est venue comme ça. Qui c'est qui t'envoie le télégramme? Comment ça se fait que la banque, avec ta tronche, elle a accepté le crédit? Non, mais t'as vu ta tête? Il fallait... Toi-même, tu l'as dit vraiment, le banquier, il était aveuglé. Oh, aveuglé. Qui c'est qui l'a aveuglé? Tu n'as rien fait. C'est pas toi, virale. Ouais. Tu dis, oh, mais quand même, maintenant que je l'ai, c'est à moi, non? Ça veut rien dire. Tu fais un placement à 80%, bah, deux jours, t'as tout perdu. Alors, c'est quel point c'est à toi? Ah, j'ai fait un petit infarctus, comme ça, un petit arrêt cardiaque. Tu vois ton argent par terre, dans ton... Alors, t'es riche? Ah oui, c'est relatif. Vous comprenez ou non? C'est quoi la richesse? C'est ça avec les poignées du cercueil qui va les mettre à l'intérieur. Ça veut rien dire. Est-ce que je suis riche? C'est quoi riche? Comprenez? Une bulle d'oxygène dans le sang, il est foutu le mec. Une minute sans oxygéner le cerveau, il est foutu. Et s'il n'est pas mort, il a des séquelles, tu ne te marieras pas avec lui. Vous avez compris ? Alors c'est quoi la richesse ? Il dit, mais ah, je suis riche, j'ai du fric. Quel fric ? Quel argent ? T'as rien du tout. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. T'as rien vu ? T'as rien vu ? L'Hachem arrête sous l'eau, l'argent il est HM. L'argent il est HM. Il est chez toi en dépôt. Vous comprenez ? Il dit le Betalevi, il donne un exemple. Tu vois un milliardaire, il est très riche. C'est comme une mouche sur un gros paquet de sucre. Qu'est-ce qu'elle peut faire une mouche avec un paquet de sucre ? Vous comprenez ça ? Mec, il a un milliard. Oui, la mouche, elle mange. Vous savez ce qu'elle mange ? Une mouche, elle mange rien. Est-ce que, imagine un tas de sucre comme ça, 20 kilos de sucre. Et la mouche, elle est là. Elle se pose, elle lèche un peu. Elle se... Voilà, ça, c'est le riche. Et un jour, il y a un petit gars, il prend un paquet de sucre. T'as quelque chose, toi ? C'est une mouche. Puis là, le pire encore. Il dit, c'est une mouche enfermée dans une boîte avec le sucre. Qui était enfermé dans ta richesse. Parce que dès que tu es riche, il faut que tu gères. Est-ce que vous comprenez ça ? Il faut que tu gères. Tu dis, quand je vais faire ces 3 milliards ? Si je le place à 2%, j'éclate à 4%. Et tu es là, je le place. Et je vous prends la tête. Mais si je le place, dommage, je vais le placer à long terme, je le place à court terme. Le mieux, 4 magasins, 4 succursales, 80 employés, 5 usines. Alors le mec. Et plus il vit intensément pour gérer ce sucre, et moins il va mieux. Toute la passion qu'il met dans la gestion de ce sucre, c'est son appartif qui prépare. Ah ouais. Si tu vois celui-là, il a une vie intense. Elle est intense mais courte. C'est ça la différence. Comment on fait du sirop ? On fait cuire le sucre. Hop, il est plus intense, mais il y en a moins. C'est pareil la vie. Alors tu dis, qu'est-ce que j'ai fait avec ma richesse ? Ben, je suis mort. Ben, tu vois, grâce à ma richesse, je suis mort plus tôt. Mes enfants, ben, au prochain, ils ont de quoi vivre. Mais pourquoi toi, qu'est-ce qui fait tout ta richesse à toi ? Hachem, alors ils veulent soucier de leur richesse à eux. Tout le monde travaille pour que les enfants ils soient dans la sécurité. Pourquoi, mais toi quand tu arrives d'Algérie, quelqu'un s'occupait de ta sécurité à toi ? Bizarre. Ici c'est pareil. Ici c'est marqué, un homme il va réussir à donner. Maintenant il faut donner à Hachem. Tu dis mais donner à Hachem ça va rien dire parce qu'Hachem il a tout. C'est à lui de toute façon. Regarde, on a déplacé les étagères. C'est un peu chez toi, un peu chez moi, un peu chez toi, un peu chez toi. Mais c'est toujours à moi. Hein. Sur les lingots, il y a marqué HM. Il y a marqué HM. Il fait ce qu'il veut avec. Il te les prend demain comme il te les a donné aujourd'hui. Donc comment tu vas faire pour donner à Dieu ? Alors, il y a deux parties dans le don. Dans le don, il y a la partie que tu donnes à quelqu'un. Et dans le don, il y a la partie que tu prends de toi. La partie que tu donnes à Dieu, tu ne peux pas la faire parce qu'il l'a déjà. Mais la partie que tu prends de toi, tu peux la faire. Parce que toi, dans ton halom, t'as quand même l'impression que c'est à toi. Et ça te coûte. Quand t'as dit, vous pouvez me donner la zaka, t'as pas l'impression que tu lui rends son argent. Hein. Est-ce que vous comprenez ça ? Tu vois là, je suis très mal en ce moment. Est-ce que vous pourriez me donner 15 000 francs ? 15 francs ? 15 000 francs ? Je ne les gagne pas. Oh, ben vous devriez faire la manche. Tu comprends pas ça ? Donc à ce niveau-là, ce qui est difficile, c'est de prendre de soi. Et c'est là que ça va me coûter. Oui ? C'est marqué dans le pasouk, Kehru mi'itechem teruma. Ici c'est marqué, Vekruli teruma. Là-bas c'est marqué dans lequel, Kehru mi'itechem. Prenez de vous, oui ? Teruma la teruma, le prélèvement. Prenez de vous. C'est pour ça que c'est pas marqué, tenouli, donnez. Il n'y a pas qui donnez-moi, il y a qui prenez de vous. Parce qu'à ce niveau-là, ce que Hachem il va exiger de toi, c'est pas que tu lui donnes, parce que si Hachem il le veut, il le prend tout seul. Et là, c'est lui qui t'a donné quand tu es sorti d'Égypte. Tu sais qui t'a donné l'or, c'est Hachem. Donc il n'a rien fait, t'as rien fait toi. Maintenant que tu as l'impression que ça t'appartient, ça te coûte de donner. C'est ça qu'Hachem il te demande. Vas-y, prends de chez toi. Alors nous, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça pour faire le Mishkan ? Il faut bien comprendre. Hachem, il a tout organisé parce que c'est la manière dont il faut construire le sanctuaire. Ça veut dire que pour fabriquer un lieu de résidence pour Hachem, déjà l'argent qui va être nécessaire pour le fabriquer, il faut que ça coûte. Il faut que ça coûte. Est-ce que vous comprenez ça ? Si quelqu'un il va dire, moi, je suis un milliardaire, je gagne 10 millions par jour et je vais donner 100 000 francs pour une yeshiva. Alors nous on dit, bah, tu vois, c'est quand même pas mal. Pour la yeshiva, c'est bien, mais au fond, à son niveau à lui, c'est que dalle zéro. Comprenez ? Lui, en frais divers, pas en frais fixe de, pour vivre, en frais divers, il a $1 million par mois. Nous, on comprend pas ça. Par exemple, une fois, j'avais lu dans un journal, il y avait le fils d'un cher arabe, là. Pour l'argent de poste de son fils, son père, il lui avait donné un petit puits de pétrole. 84 millions de dollars mensuels. Un petit puits de pétrole pour l'argent de poche de son fils. Il est jeune encore. Il ne sait pas dépenser beaucoup. Alors il donne un petit. Et sinon, il ne va pas savoir quoi faire avec. Ça va le frustrer, ça va l'angoisser. Il va dire, oh, je ne sais pas dépenser. Alors pour pas qu'il ait des complexes, on lui a donné un petit puits de pétrole. Il ne peut pas acheter encore des trusts et des... Il ne peut pas. Alors on lui a donné un petit. Mais ce mec-là, quand il donne $1 million, pour lui, c'est comme s'il avait rien donné. Or, c'est marqué, la tzedaka, elle est chesed. La tzedaka, elle dépend pas de la somme, elle dépend du chesed. Mais c'est quoi le chesed? Alors nous, le chesed, on croit que ça veut dire ce qui arrive chez l'autre dans le chesed, c'est-à-dire c'est ce que ça te coûte à toi. C'est-à-dire que si un type, il a 100 balles, et il fait un effort, il donne 50, c'est mieux qu'un type qui a 1 milliard et qui donne 1 million de francs. Je dis, mais je comprends pas, mais il a quand même donné. Je t'ai expliqué, tu comprends pas. Il y a une histoire avec le Hafetz Chaim quand il a voulu construire sa yeshiva à Radin. Pourtant, c'était pas une ville qui était prédisposée pour la tzedaka à Radin. D'accord. Et c'est fait comme ça. Et alors, il a voulu construire. Au début, il avait pris une petite salle comme ça. Qui était... Et puis d'un seul coup, il y a eu beaucoup d'élèves. Il n'y a plus de classe. Alors, ils ont décidé de construire un bâtiment. Il y avait un type très riche là-bas, un milliardaire, qui s'appelait Rav Moshe. Et Rav Moshe, il a entendu que le Hafetz Chaim, il cherchait l'argent. Lui, il n'avait pas d'enfant. Il a été voir le Hafetz Chaim, il a dit, écoutez, moi, j'ai pas d'enfant, je suis très riche. Moi, je paye tout le bâtiment, je le paye à ma charge. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Oh, mais la Shabaïm, oh, super, va au Hachem, vraiment, le Hafetz Chaim, pour pas qu'il suce des semelles, à aller voir les gens. C'est ce qu'il a dit, le Hafetz Chaim? Il a dit, c'est pas possible. Et pourquoi? Il a dit, parce que la yeshiva, elle doit être construite par tout le monde. Or, si toi, tu payes tout, tu vas voler le mérite des autres. Nous on dit c'est une maison de fou. Hein. C'est un type qui refuse l'argent. Au lieu de se prendre la tête pendant 20 ans à ramasser, le type paye tout cash. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, tu voles le mec. C'est un voleur en plus. Il dit attends, moi je peux profiter, je peux aller au casino tous les soirs. Je prends 1 milliard pour toi et toi tu me dis je suis un voleur. Parce que j'ai volé le mérite des autres. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il l'a convoqué en dîme Torah au tribunal. Rabbinique. Vous rendez compte? Non mais on dit c'est anglais. Nous on amène les voleurs, on amène les tricheurs. Oui, là, s'il a emmené en dîme Torah, ils ont été chez Rav Chaim Moser, c'était le plus grand de la génération. Imaginez pour emmener le Hafetz Chaim en dîme Torah. C'est comme si vous emmenez Baba Salé au tribunal. C'est un peu le genre. Genre, lui, il a fait une faute. Oui. T'es sûr, c'est pas toi. Ils ont dit à Rav Chaim Moser, ils ont dit voilà, lui, il veut donner tout l'argent pour la yeshiva, et le Hafetz Chaim, il veut pas. Parce qu'il a dit que le mérite, c'est le mérite de tout le peuple, c'est pas le mérite d'un homme. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Chaim Moser? Après Moser, il a dit, les deux, vous avez raison. Il a dit, le mur de l'Est, le Midrash, on va le garder, c'est-à-dire un quart de la yeshiva, ça va être payé par le Rav Moshe. Mais le reste, il faut que ça soit payé par toute l'Israël. Parce qu'il faut que tout le monde participe à la construction. Tout le monde participe à la Torah. C'est incroyable. Pour fabriquer quelque chose qui concerne tout le monde, il faut l'argent de tout le monde. Ouais. Mais cet argent-là, il doit être donné de quelle manière? Alors la Torah, elle t'explique, elle dit tout de suite. Hacher idevenu libo. Il faut qu'il donne de bon cœur. Pas de bon cœur, on n'en veut pas. D'accord? Mais pourquoi il faut le donner de bon cœur? Mais l'argent, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on dit? Nous, l'argent n'a pas d'odeur. Sans créer, ça vient de là, ça vient de là. Après, on regarde. Peut-être qu'il est en train de blanchir de l'argent, sans savoir. Peut-être qu'il a de la poudre chez lui, ça devient des billets, maintenant. C'est cachère. Tampon, cachère. Non, non, garde ton argent pourri. Hacher idevenu libo. Maintenant, comment cacher les argent? Parce que ça te coûte. Quand ça te coûte de le donner, c'est de l'argent cachère. Parce que l'argent que ça te coûte pas de donner, c'est de l'argent pourri. Comprenez ça? Des fois, des gens, ils font des magouilles de folie, ils ramassent beaucoup, et puis après, ils vont donner une yeshiva, ils disent, voilà, je voudrais donner 1 million de francs. Ils voudraient te racheter un petit olababa. Ils voudraient cachériser l'argent. Une fois, il y a une histoire avec Rav Pinto comme ça. Un type qui venait avec une mallette. Tac, voilà, Finto, la Shiva. En Finto, il a dit, gardez votre argent. Attendez, c'est une somme. Même les gens de la Yeshiva, ils ont dit, écoutez, mais ça peut servir, il faut payer les élèves. Il a dit, pourquoi vous me donnez de l'argent, vous? Comme ça, il lui a dit. Pourquoi vous me donnez de l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous arrive à vous? Il dit, ben, je veux faire un don d'une somme pareille, un mec que je connais même pas, il sait même pas d'où il sort, il sait même pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec-là? Il y a un problème. Eh ben, il l'a travaillé, le mec, il a dit, c'est de l'argent volé. C'est de l'argent volé. Maintenant, lui, il avait gardé 99 fois plus à la maison. Et les 1%, il a dit, je prélève le maaser. Mais non. La seule manière de cachériser de l'argent tarès, c'est de le brûler. C'est pas le donner. Vous comprenez ce qui est marqué ici. À Kadosh Baruch Hu, il a voulu un argent qui te coûte. Un argent qui te coûte. A chéride venu libo. Ve ikrouli teruma mitrem. De vous, vous allez le prendre. De vous. Tu prends de chez toi. Comme ces femmes, elles ont donné leur miroir. Ça leur coûte. Kadosh Baruch Hu, il a dit, avec ça, on peut faire un mishkan. C'est pareil, chacun il va donner la trouva. Ah, il a amené de l'or, il a... le mec a amené comme ça. Voilà, Moshe, tiens. Tiens, justement, j'en ai 100 000, je t'en donne 3. Moshe l'a dit, garde, s'il te plaît. Va tapisser tes toilettes avec. La Torah, elle veut que tu donnes avec ton cœur. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la limite, il faut que tu t'obliges. Ouais, mais au contraire, on dit, voilà, je donne de bon cœur. Non, non, non. C'est pas un don, ça. Ah, je vous prie, il veut que tu t'obliges. Il veut que tu te forces. C'est-à-dire quoi? Il veut que tu luttes contre ton envie de ne pas donner. Parce que, quelle que soit la générosité de chacun, on a toujours un petit... On est gentil. Alors, Hachem, on est sympathique, on est tous ouverts, on est tous cool et tout ça. Imagine, il y a un mec qui est vraiment, il est mal, il demande 400 francs. Bon, tu lui donnes 400 francs. Mais une minute après, il y a un mec qui rentre, il demande 800. Bon, t'es gentil, mais bon... Hein? Bon, tu te saignes, tu lui donnes 800. Une minute après, il y a un mec qui rentre, il demande 1400. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ouais, je comprends pas ce qui t'arrive. Idée venue, libo. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut... C'est bon. Il faut que ça te coûte, oui. Ça s'appelle... Avodat Anefina. Le travail que tu vas faire sur le don. Maintenant, on repose la question, pourquoi est-ce qu'Hachem il avait besoin de ça pour faire le Mishkan? Nous on dit, il faut des matériaux, bon, il faut du ciment, il faut de l'or, tu prends ce qu'il y a et puis tu fais avec. Ce qui compte, c'est l'objet. Non, Hachem, il ne veut pas un objet. Hachem, il veut quelque chose qui vient de chez toi. Quelque chose qui te coûte, quelque chose qui va te remettre en cause. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Tfilo Shel Guf. Vous voyez, ce petit malaise qu'on a à donner plus, ou à donner trop, ou à donner quand on est mal à l'aise, ou à faire des efforts, ça s'appelle Tfilo Shel Guf, c'est l'ombre du corps. Le corps, c'est la matière, d'accord? La bonté, c'est de l'antimatière. La vraie bonté, c'est quand tu donnes, pas quand tu achètes. Si tu t'achètes des remerciements, si tu t'achètes une image, si tu t'achètes une réputation, c'est pas que tu donnes, ça t'achète, ça. C'est pareil. Quelqu'un qui donne, ça veut dire que lui, ça va rien lui rapporter. Et il donne quand même. Ce qu'il est en train de donner, ça lui coûte. Pourquoi? Parce que ça va rien lui rapporter et ça va lui manquer quelque chose. Il dit, tu vois, ça, c'est la matière. Ton argent, il est inscrit dans la matière. Quand tu dois faire un don de tout cœur, il faut que tu luttes contre ta matière. Ça s'appelle Avodat Anepina. C'est ce qui est marqué ici dans le pasouk, Veikrouli. Eux, ils vont prendre. Vous allez prendre de chez vous pour moi. Pour le Beth Amikdash. Même le tzaddik, même le plus grand, même le plus généreux, quand même, quelque part, ça lui coûte un peu. Bon, il le fait, le résultat c'est le même. Mais, il fait un certain travail. Il faut ce travail-là. Parce que nous, imaginez, les Bnei Israël, ils étaient esclaves en Égypte, d'accord? Les pauvres des pauvres, même leur vie n'a pas de valeur. Ils sortent d'Égypte archi-milliardaires. Archi-milliardaires. Est-ce que vous vous rendez compte que... Tous les pays de la région, il y en a qui disent tous les pays du monde, ils étaient dans la famine pendant les 7 ans de famine. Donc tous les pays sont venus se nourrir en Égypte. Donc tout l'or du monde, il est venu en Égypte. Ça va? Après, les Bnei Israël, ils ont récupéré tout l'or qui est en Égypte, ils sont sortis avec. Korach, il avait 600 ânes qui portaient les clés de ce trésor, les clés. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Avec une partie du trésor que Nebuchadnezzar, avec une partie hein, du trésor que Nabucodonosor, il a ramassé quand il a conquis Israël, avec une partie, il a rempli 1080 cavernes d'or que a hérité Achashverosh. On ne sait pas ce que veut dire la richesse aujourd'hui. Vous comprenez ? Nous on dit, la patronne de L'Oréal est riche. C'est rien du tout ça. Moi je te parle des montagnes. Tu vois par exemple je te dis, 1000 mètres cubes de diamants. C'est impossible. Ouais. C'est la richesse. Imagine les Israélites sont sortis avec ça d'Égypte. Oh, ils étaient bourrés. Comme ça. Alors Hachem il a dit, est-ce que vous pourriez donner pour le Mishkan ? Alors il dit, mais je voudrais que ça vous coûte. Oh, Dieu. Milliardaire. Ça valait tout quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Si Hachem les avait fait sortir pauvres, il leur avait dit, faites un effort. Alors là, il aurait dit, on va le faire. Mais si Hachem les a fait sortir, qu'est-ce qui est plus dur? La générosité du riche ou la générosité du pauvre? D'un côté, le pauvre, tu dis, c'est vrai, c'est dur pour lui. Le pauvre, il a 100 balles pour manger, il donne 50 francs à la Zaka, c'est dur. Mais le riche aussi, parce que lui, il a un grenier de sa main, lui, il dit, mais attends, mais moi, ce que je vais faire, je vais placer cet argent, et ça va rapporter plus à la Zaka, c'est faux. Parce qu'il donne toujours le même pourcentage. Il touche plus, mais il donne toujours le même pourcentage. Donc, il donne moins. Au contraire, maintenant, il donne moins, il dit, maintenant, je donne 100 000, mais t'as gagné 1 milliard. Il dit, oh. Chacun compte ses sacs de blé, hein. Ici c'est marqué. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu donnes cet argent que tu n'as pas envie de donner. Il a voulu que tu donnes cet effort que ça te coûte. Ce qui est marqué ici. La partie que nous on offre à Hachem quand on fait la terouma, quand on fabrique le Mikdash, c'est pas l'argent qu'on a donné. C'est l'effort que ça nous a coûté. Hachem il a dit, vous voulez faire un Mishkan ? Il va falloir faire un effort sur vous-même. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, Hachem, il aurait très bien pu faire un miracle et de la terre, il serait sorti comme ça un temple. Paf ! Direct. Et toi, tu n'aurais rien donné. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, non, je veux que tu donnes de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'Hachem, il a besoin de ton argent. Parce que l'argent, c'est à lui. Il a besoin de tes efforts. Et avec tes efforts, imaginez, on avait un appareil pour récupérer l'effort qui est contenu dans l'argent. Vous comprenez ça ? Imaginez ! On a un aspirateur d'effort. Hop, on aspire l'effort. Et avec l'effort, on fabrique le mixage. C'est pour ça que c'est marqué Veikru mi itrem. Il prendra de vous. Les gens, ils croient que ça veut dire qu'il prendra l'argent de vous. Non. Ça veut dire qu'il prendra de vous, c'est avec un morceau de vous qu'il a fait le Mishkan. Vous voyez un peu le... Il va doucement le cours, mais il va quelque part. Ici c'est très simple, on a compris une chose qu'on savait déjà, on a compris que pour fabriquer le Mishkan, il fallait un don de soi. Donc, le Mishkan, c'est un gros morceau de soi. Puisque chacun de nous a donné un peu de lui-même. Et pour être certain que ça valait de lui-même, il fallait que ça lui coûte. Donc quand ça lui coûte, il a donné de lui-même. Vous avez compris maintenant pourquoi Ajourou il a demandé, il était très content des miroirs. Les miroirs, c'est extraordinaire. Tu peux dire que vraiment, la femme, elle s'est sacrifiée, ça lui coûte. Tu te rends compte, c'est le miroir. Le miroir, c'est son image, c'est sa représentativité. Elle veut savoir la tête qu'elle a, elle veut savoir comment on la regarde. Alors, elle dit, ça, je le donne à Hachem. Mais qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné sa représentativité, elle a donné son image. C'est dur. Donner de l'argent, c'est facile. Donner un miroir, c'est dur. C'est pareil ici. Il croulit, Teruma. Il crou, mi, trem, Teruma. Kol Nedivelev, oui, tu vas donner avec ton cœur. C'est ce qu'il veut Hachem. Pourquoi? Parce que pour donner de cette manière-là, en vérité, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Il faut sacrifier sa mesquinerie. Il faut sacrifier sa petitesse. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il a dit, donne-moi. Donne ta petitesse. Vas-y. Il faut surpasser. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? C'est comme si moi j'ai envie que tu t'épanouisses. D'accord? Alors je te donne un exercice. Et toi tu triches. Alors toi tu dis, oui, mais écoute, qu'est-ce qui compte pour toi? C'est que la feuille soit remplie. Voilà, la feuille est remplie. Mais j'en ai rien à faire de la feuille. Ce que je veux, c'est ton existence à travers la feuille. Donc je veux que tu existes. À quoi ça me sert que tu me donnes la feuille maintenant? Vous avez compris? Hachem, il veut faire un Beth Amikdash. Alors on nous dit, bah, pour faire un Beth Amikdash, il faut de l'or, il faut de la soie, il faut du cuivre. Mais non, il faut pas tout ça. Mais Hachem, il a pas besoin de ça. Mais bon, tu crois franchement que maintenant tu es content? Mec, il dit, bah, tu vois moi, grâce à moi, la synagogue, elle aura des nouveaux toilettes. T'es content? Mais t'es brain ou quoi? Là, tu dis, moi j'ai offert le rideau, la parenchette. Ah, il y a ton nom, tout ça. Ah, t'es content. Tu rentres, tu dis, la parenchette, c'est moi. Et là, tu dis, moi, le papier de toilette, c'est moi. Alors, hein? À quoi ça rime? C'est cette histoire. Non, c'est faux. Hachem, il t'a pas demandé de donner des objets. Les objets, il n'a pas besoin. Les objets, c'est quoi? C'est une accumulation de matière. La matière, c'est l'énergie. C'est Hachem qui fait l'objet. Tu lui as donné quelque chose, t'as rien fait. T'as fait un courant d'air. Par contre, en donnant, ça t'a coûté quelque chose. C'est ça que t'as offert. Si on a compris ça maintenant, hein. C'est marqué dans l'effet Shachaim. Au Perek Aleph, au Char Aleph, Perek Dalet, il dit comme ça. Quand les Romains sont venus, ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont détruit le temple. C'est marqué dans la Bible, dans le Passouk, qu'en vérité, ils ont réduit en poussière des cailloux qui étaient déjà cassés. C'est-à-dire que le temple était déjà détruit. Eux, ils sont venus, ils ont fait tomber un truc qui ne tenait pas debout. Imagine, il y a les pierres, mais il n'y a pas de ciment. Tu pousses, ça tombe. Ah, où il est le ciment? Le ciment, c'était la Rouchniout, c'était la spiritualité. À partir du moment, il dit les Echachaim, où les Bnei Israël, ils avaient déjà détruit le Beth Amikdash qu'ils avaient en eux, le Beth Amikdash spirituel, le temple spirituel, alors le temple physique, c'est rien du tout. Il a disparu. Regardez ce qu'il dit. Keshekulkelu Pnimiout Amikdash, quand ils ont détruit l'intériorité du sanctuaire, chez Betocham, qui est à l'intérieur d'eux, Az, lo o il amigdal achitsoni, le Beth Amikdash de l'extérieur, aucune valeur. Vénersu yesodotav, déjà les bases, elles ont été détruites à ce moment-là. C'est marqué dans la Gemara dans Sota, à la fin de la Gemara, c'est marqué. Au fur et à mesure que les Bnei Israël ont fait des Averot, la Shrina est sortie du Beth Amikdash. D'abord, la Shrina, la résidence divine, elle est sortie du temple, elle est du Kodesh HaKodashim, elle était dans la Hazara, dans la cour du temple. Après, elle est sortie de là-bas, elle a été sur le Harabaï, sur la montagne du temple, mais en dehors du temple. Après, elle est sortie des Yerushalayim, après elle est sortie des Israël, après elle est sortie du monde. Quand la Shrina est partie, oui, le temple, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est comme un corps quand il n'y a pas la Neshama. T'as vu un corps sans la Neshama? C'est comme un type qui était vivant, une force de la nature, et il est mort. Maintenant, il est par terre, regarde-le. C'est un sac de viande. Tu tires par là, tu tires par là. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est la Neshama qui est à l'intérieur. C'est comme une main. Tu vois une main, tu dis, mais la main, elle est vivante. D'accord, mais comment elle bouge? Je dis, bah, il y a des muscles, des articulations, des nerfs. Ah bon, la même. Les mêmes nerfs, les mêmes articulations, les mêmes cartilages, le même sang. Le même pire encore, je te fais encore fonctionner le système sanguin et j'enlève la Neshama. Regarde un steak par terre. Regardez quand ces gens, bah, les nous, ils ont un handicap, la moitié du corps. Ou même rien que quand on fait la, comment ça s'appelle, la péridurale. Vous voyez le corps, comment il est? Les jambes, elles pèsent. Prenez les jambes de la femme quand elle a fait la péridurale. Très lourd, comment je sais? Pourtant c'est le même poids, non? C'est marqué dans la Gemara, Chaim ne fait pas ce mot. Le vivant, il se porte lui-même. Quand vous portez quelqu'un qui est vivant, ouais, il est beaucoup moins lourd que quand il est mort. Comment je sais? Ça, c'est les scientifiques, ils comprennent pas ça. Ils ont remarqué physiquement, c'est comme ça. C'est une impression de lourdeur. C'est plus lourd. On savait déjà que le corps s'allongeait quand on dormait, vous savez, le corps s'allonge quand on dort. Vous savez ça? Enfin, pour les petits, ça peut leur permettre de rêver un peu. Mais, non, faire les chidokines de la nuit, quoi. D'accord? Mais, que le corps, il s'alourdit. Même quand on dort, le corps, il s'alourdit. Mais là, il y en a même réveillés, ils sont lourds, pour te dire. Enfin, c'est autre chose, là. Mais, ici c'est marqué qu'en vérité, la Neshama, c'est elle qui porte le corps. Si on enlève la neshama, bah, le corps il tombe par terre. La neshama du Beth Amikdash, ouais, l'âme du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est la ouchnou du Beth Amikdash. C'est la spiritualité. Or, la spiritualité du Beth Amikdash, elle est chez Bnei Israël. Si les Bnei Israël font une certaine dose d'Averot, hop, elle sort. Un peu plus, elle sort. Un peu plus, elle sort. Un peu plus, elle sort. Il n'y en a plus. Et d'abord, on a enlevé la spiritualité, ensuite on a détruit le temple. Oui? Maintenant, regardez, il dit le Rav Dessler, on prend le problème à l'envers. Si pour détruire le Beth Amikdash, il faut enlever la spiritualité qu'il y a dedans. Donc pour construire le Beth Amikdash, il faut mettre de la spiritualité dedans. C'est simple. Vous prenez un ballon, il est plat. Quand vous le gonflez, il est gonflé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du souffle. Qui fait le souffle? C'est vous. C'est l'expression de vous. C'est moi à l'intérieur, c'est le ballon. Maintenant, si le ballon, j'enlève l'air, il est plat, il n'y a rien dedans. Ici, c'est pareil. Imagine-toi que quelqu'un, il veut construire le Beth Amikdash. Hachbourou, il a dit ça, c'est une chose. Pour faire un Mishkan, j'ai besoin de vous. Les gens, ils disent, mais évidemment, il faut de l'argent. On a besoin de... Non, si j'avais dit, j'ai besoin d'argent, j'aurais dit, j'ai besoin d'argent. J'ai pas dit, j'ai besoin d'argent, j'ai dit, j'ai besoin de vous. Vous, c'est pas l'argent. À chaque fois que vous verrez que quelque chose se construit dans le monde, c'est toujours à cause de la bonne volonté des gens qui ont mis à l'intérieur. C'est jamais les moyens qui manquent. C'est toujours les bonnes volontés. Faites n'importe quoi dans le monde, n'importe quoi, un mouvement de jeunesse, une garden party, n'importe quoi. S'il n'y a pas de bonne volonté, ça ne marchera jamais. S'il y a de la bonne volonté, tu trouveras toujours les moyens pour aller au bout de ta volonté. Pourquoi? Parce que l'être transparent, l'expression de la volonté, il va tirer le matériel. S'il n'y a pas d'être transparent, il n'y a pas de matériel. Tu dis, mais je comprends pas. Nous avons les moyens. Ça sert à rien. Les moyens, c'est toi. C'est toi le moyen. C'est combien tu t'es investi à l'intérieur de la chose. C'est pour ça que je vous avais expliqué dans le cours sur la bonté. Quand je crée quelque chose, c'est mon moi que je mets à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça existe, parce que moi je contiens la vie. Et je prends de ma vie à moi, je la mets dans quelque chose. Si je prends de ma vie, je la mets dans mon entreprise, je crée une entreprise. Si je la mets dans un produit, je donne de la vie dans un produit. Si je la mets dans mon couple, je crée mon couple. Si je mets de moi dans mes enfants, je crée mes enfants. C'est moi qui donne la vie aux choses. Parce que je prends de ma vie, je la mets à l'intérieur. Donc en fait, je redistribue un certain potentiel de vie que j'ai à l'intérieur. Comment on appelle le système de redistribution de la vie? On appelle ça Chesed. D'accord? Maintenant Hachem, il a dit, maintenant vous allez construire un Beth Amikdash, vous allez construire un Mishkan. Comment vous allez faire un Mishkan? Comment on fait un Mishkan? Oh, tu dis, bah, ouais, bah, c'est rien, il faut des murs, de l'or. Mais tu rigoles ou quoi ça? T'as déplacé des lingots, ils étaient là-bas, tu les as mis là, ils étaient déjà. Il n'y a rien dans le lingot, vous comprenez? Il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien. Tu prends une salle, une grange, tu mets de la Torah à l'intérieur, ça devient une yeshiva. D'accord? Tu enlèves la Torah, ça devient quoi? Une grange. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est l'expression de ton être. Mais si tu ne t'investis pas dedans, ça reste une grange. Pire, peut-être c'est même une écurie pour les bestiaux. Rien. Et ça, chacun, il peut sentir. Tu vas à un endroit, tu sens. Tu sens le spirituel qui est là-dedans. Tu vas à un autre endroit, ça ne fait rien, tu l'as. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Mais comment est-ce qu'ils ont pu mettre du marbre au plafond? C'est beau. C'est beau comme un cercueil, c'est beau. C'est beau, mais c'est vide. T'as pas remarqué? Des fois, tu vas dans une petite synagogue, comme ça. T'as des fissures, halwa baba. Et il y a la shrina. Bizarre, hein? Parce que les gens, ils ont mis d'eux-mêmes à l'intérieur. C'est un petit truc bricolé. Dans chaque clou, le mec, il a pris de la Messirut Nefesh. Ils avaient des marteaux de Messirut Nefesh, de sacrifice. Et vas-y. Voilà. Celui-là, il a pris tous ses dimanches pour faire la peinture. Celui-là, il a pris tout son argent de poste pour faire la moquette. Celui-là, il a pris tous ses trucs pour faire ça. Alors, l'accumulation du don de soi de chacun, ça a fabriqué un endroit. Et bien, quand tu rentres, tu le sens. D'accord? L'autre, au contraire, ils sont mis à quatre. Ils sont quatre blindés, un voleur, un tricheur, un truand, un magouilleur. Ils ont dit, mais notre communauté aurait bien besoin d'un temple. Faisons donc un temple. Alors, dit, justement, j'ai à blanchir quelques millions. Oh, tu... Moi aussi, j'ai un stock de marbre. Et l'autre, il dit, ben moi, justement, j'ai aussi. Eh ben, allez, mettons-nous, d'accord. Tu rentres à l'intérieur. C'est bizarre. Tu sens rien. Mais c'est beau. Oh, c'est beau. Le Echa, dernier cri. synthétiseur. C'est beau. Il n'y a rien. Que dalle, zéro. Pourquoi ? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la recette. Il t'a donné. Il t'a dit, ve'ikru mi'itrem teruma. Vous prendrez de vous. Maintenant, vous prendrez de la réserve fédérale. Vous prendrez de votre compte en banque. On s'en fout complètement. On veut que ça vienne de toi. Et ce de toi-là, quand tu vas le projeter dans la réalité, comment ça s'appelle ? Mishkan. L'accumulation du toi de chacun. Pour faire un toi à Hachem. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce qui est marqué ici. Et maintenant, il faut arriver à comprendre. Et c'est ça qui est énorme. Que, au niveau de la destruction du temple, tout le monde comprend ça. C'est normal s'il n'y a plus de spirituel. S'il n'y a plus un Shama. C'est normal, ça fait cool. Mais pourquoi pour la création, c'est comme ça ? La même chose. En plus, les avérots, tu vois pas ce qui se passe. Imagine-toi qu'on aurait un truc à infrarouge et on verrait telle avéra, elle détruit cette partie du temple. Et telle avéra, elle détruit cette partie du temple. Un mec qui serait effrayé. Il est cool en train de faire sa petite avéra tranquille avec sa copine. Ah ouais. Ouais. Alors il y a un ange qui vient et dit, vous êtes en train de détruire l'aile droite du Beth Amikdash. Ginette, t'as pas entendu. Ajourou, il a demandé, il a dit, faites-moi un mishkan. Pour ça, il a dit, investissez-vous. Il faut que ça vous coûte. D'accord ? Donc, ouvrez bien vos oreilles maintenant. C'est exactement l'inverse de ce qu'on pense. Nous, on pense que le mishkan, c'est un outil. Oui ? Au contraire. On pense que le cœur, c'est un outil pour le mishkan. C'est-à-dire quoi ? Nous, on dit par exemple, moi j'ai besoin de me concentrer. Alors, qu'est-ce que je vais être dans la synagogue ? C'est plus facile de prier. Par exemple, à Kippour. Imagine à Kippour, tu dis, tiens, je vais prier cette année à Kippour. Il y a une... À Point Chaud, il y a un truc sur les champs. Ça existe encore, Point Chaud ? T'as plus ? Point Chaud, ça existe ? Pour une ambiance de Kippour, tu vois là-bas, les gens qui rentrent, les gens qui sortent, les rôles qui s'arrêtent. Ah. Pour Kippour, c'est bon, non ? C'est pas vraiment l'endroit que... Un mec à Kippour, il dit, ben, je vais venir. Donc nous, qu'est-ce qu'on pense ? On pense que la synagogue, c'est un outil qui nous est nécessaire pour que notre cœur puisse se révéler. C'est clair ? Comme ça, on pense. Ici, c'est marqué le contraire dans la Torah. C'est marqué qu'en vérité, la Torah, elle t'a demandé de fabriquer un mishkan pour que ton cœur se révèle. Ça veut dire que c'est le mishkan qui est l'outil du cœur. C'est pas le cœur qui est l'outil du mishkan. Il dit le Rav Dessler, Amishkan beprinat keli. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est un ustensile qui est fait pour ça. C'est comme si Hachem, il avait dit comme ça. Écoutez, on va tous s'investir, et puis ensemble, on va penser à Dieu, et ça suffira. Mais comme c'est trop difficile, c'est trop abstrait, alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, donner la trouma. Fabriquer des ustensiles. Et toute la fabrication du Mishkan, c'est que ça. Chacun, il va faire des efforts. Il va donner son argent. Les femmes, elles donnent les miroirs. Après, on va prendre des types qui ne sont pas des professionnels. Des gens qui s'improvisent comme ça. Tiens, toi, t'es orfèvre. Non, je suis quoi ? Moi, je suis maçon. Ah, bah tiens, ça, tu vas fabriquer. Tu vas faire les objets en or. Ne comprends pas. Oui ? Non, il fallait aussi des mecs qui n'y connaissent rien. Parce que le mec qui n'y connaît rien, il met tout son cœur pour y arriver. Donc, les gens qui l'ont fabriqué. Les gens qui ont donné l'objet. Les gens qui vont investir pour le monter. Les gens qui vont le transporter. Tout ça, il faut que des gens qui donnent d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que si Hachem il avait dit, eh ben, offrez-vous, on n'aurait pas réussi, c'est trop abstrait. Comprenez ? Par contre, donner, on sait faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre de nous-mêmes, et ce nous-mêmes qui accompagne l'objet, c'est ça le mishkan. C'est qu'un type, il croyait qu'il était en train d'amener de l'or, il n'était pas en train d'amener de l'or. Il était en train d'amener ce que Hachem n'a pas. Toi. Ça veut dire, le don de soi, le don du cœur, réel don du cœur. Alors maintenant, tu peux comprendre comment une expression complètement dingue qui est écrite dans le pasouk. Ça c'est marqué « Kol Nediv Lev ». Toujours je vais me demander, il est bizarre ce pasouk. « Kol Nediv Lev », Kol Asher Idevenu Libo. Plusieurs fois, vous voyez cette expression dans la Torah, en ce qui concerne justement la Trouma et en ce qui concerne la Mishkan. Idevenu Libo. Si on traduit littéralement, normalement ça veut dire donner avec générosité. Mais si on traduit littéralement, ça veut dire le don du cœur. Alors, les commentateurs, ils disent, mais je comprends pas. Ce que je donne, c'est un cadeau, c'est pas le cœur. En vérité, c'est faux. Ce que tu donnes, c'est le cœur. Ce qu'Hachem, il attend de toi, c'est le cœur. Et ce qui est rigolo, c'est exactement la même chose dans un cadeau normal. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, il y a deux choses. Il y a l'objet, il y a l'attention. Maintenant, qu'est-ce qui touche la personne, l'objet ou l'attention? C'est l'attention. Si tu as mis 2 heures pour choisir, pour voir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui colle, comment ça lui fait plaisir et tout ça, ça la touche plus que si c'est un truc qui t'a pris 5 minutes, mais qui coûte 2 heures de travail. En argent. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est normal. Parce que ce qui me rapproche de toi, c'est ce que tu me donnes de toi-même. C'est pas l'objet. L'objet, je m'en fous. La preuve, tu me donnes tout, mais tu me donnes pas toi. Par exemple, tu dis, tiens, je te donne tout, mais je peux pas te voir. Nous, on devrait dire, bon, mais quand même, il a quand même fait les cadeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a beaucoup de gens qui le font, même dans les couples, même dans les amitiés. Par exemple, tu fais la tronche parce que, oh bah tiens, cette année, il n'a pas pensé à mon anniversaire. Mais qu'est-ce qui touche? Parce qu'il n'a pas pensé à ton anniversaire? Donc parce qu'il n'a pas pensé qu'aujourd'hui t'es né, donc que c'est un jour qui est important pour toi, donc tu lui as pas montré que tu étais important à ses yeux, ou parce qu'aujourd'hui t'as pas offert quelque chose? T'aimes quelqu'un ou t'aimes quelque chose?
Évidemment.
Petit, ah, du shalom, mais bien sûr, mais je l'aime à lui. D'accord, pourquoi tu fais une tronche comme ça quand il t'a offert autre chose qui ne t'a pas plu? Tu fais, oh, bon. De toute façon, je l'avais déjà, l'eau de toilette de Samsara, je l'avais déjà. Bon, pour le flacon, j'aurais pu me le payer moi. Hein. Aussi crève, il est là, comme ça, en train de mourir. Ça, tu fais, c'est tout, il y a autre chose. Oh la mort. J'avais prévu autre chose, mais c'était une option. C'est quoi? Une baffe. Minimum. Le transparent qui est à l'intérieur du cadeau. C'est ce qui fait plaisir et c'est ça ce qui construit. Ce que tu mets en plus. Mais plus, c'est vrai que c'est un peu vicieux, mais plus ça te coûte et plus ça fait plaisir. Par exemple, regardez. Si toi, tu déçois quelqu'un amèrement et que l'autre, au lieu de te déchirer, il se retient, il dit rien. Parce qu'il t'aime. Tu vas l'adorer. Pourtant, ça lui a coûté 0 centime. En francs, mais en air. Et en patience, ça lui a coûté énormément. Donc tu vois bien que ce qui me rapproche, c'est ce qui te coûte. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, il y a une petite dérive. Les gens, ils ont confondu coûter et coûter. 15 000 francs et 15 000 neurones. Ça n'a rien à voir. Exactement pareil. Quand toi, tu construis un amour, ça veut dire que tu construis un temple dans le cœur de l'autre. Madame Jmokou, il a dit au Bnei Israël, vous allez construire un Mishkan. C'est une relation amoureuse que nous entretenons avec Hachem. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est le cadeau. Alors Jmokou, il a demandé, il a dit, faites un cadeau. Mais pas un cadeau, genre un objet. Je n'ai pas besoin d'objet, moi. Moi, je veux de vous-même. Veï krouli terouma. Allez, vas-y, fais un effort. Ça te coûte, c'est bien, mon frère. Comme dans tout. Sache une chose. Tout ce que tu as acquis, dans la vie, c'est tes efforts. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que tu acquiers dans ta vie, c'est tes efforts, c'est tout. Le reste, tu ne l'as pas acquis. Le Beit Halevi, il donne cet exemple avec la Zaka. Mais rappelez-vous de ça, ça va vous aider beaucoup dans la vie. Quand tu donnes la Zaka, c'est là que tu acquiers de l'argent. Parce qu'avant ça, ce n'était pas à toi. Après, ce n'est pas à toi. Qu'est-ce que tu as acquis dans la Zaka? Tu as acquis une mitzvah, c'est tout ce que tu as eu. L'argent, vous voyez? Quand tu le donnes pour la Zaka, d'un seul coup, il vient à toi. C'est ce que tu as acquis de l'argent. C'est quoi? Une occasion de faire du bien. Alors c'est pareil. Tu vas acquérir des instants. Comment tu acquiers un instant? Si tu le fais pour toi, de toute façon, tu existais déjà pour toi. Mais si tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu as acquis un instant. Tu as acquis un deuxième instant. Tu vas acquérir des gens. Comment tu fais pour acquérir des gens? Mais pas des chalons dans le sens où tu crées des esclaves. Mais tu veux acquérir, ça veut dire que tu veux créer un lien avec l'autre. Comment tu crées un lien avec l'autre? Donc tu acquiers un lien avec l'autre. Tu donnes. Chaque chose que tu donnes, tu acquiers. C'est à toi. Tu as fait un effort, c'est à toi. C'est comme quand tu réussis un examen. C'est à toi. Personne ne peut avoir l'examen à ta place, c'est le tien. Mais non, c'est quoi l'examen? C'est pas le diplôme, on s'en fout du diplôme. c'est que tu as révélé une certaine maturité chez toi. Et ça, tu l'as. C'est ça un examen. Un examen, ça sert à révéler un être potentiel. Cette potentialité, elle est acquise à partir du moment où tu as réussi l'examen.